Bonjour tout le monde, comment ça va chez vous? J'espère que vous êtes en forme, c'est le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles. Chaque jour, on entend ou on réentend un passage de l'émission du matin sur France 2 de la maison des maternelles, le témoignage, les yeux dans les yeux entre un invité et Agathe Le Caron. Aujourd'hui, un sujet qui est douloureux, qui est très douloureux, puisque nous allons parler avec un papa solo de son organisation de famille, papa solo, parce que veuf. Donc on va écouter Maxence, qui est le papa du petit Valentin, et puis derrière, on donnera tous les bons conseils pour ce genre de situation dramatique, et puis plus globalement, pour les papas, et d'ailleurs c'est valable aussi pour les mamans, qui se retrouvent seules pour élever leurs enfants. Voilà, on écoute cet épisode, et puis on débrief juste après. C'est parti.
Alors c'est une histoire dramatique qu'on va vous raconter aujourd'hui, mais c'est aussi une histoire pleine d'espoir, une histoire pleine de résilience que vous allez partager avec nous. Bonjour Maxence.
Bonjour Agathe.
Merci d'avoir le courage d'être là déjà, parce que c'est important. Merci de votre confiance aussi. Il y a tout juste un an, vous êtes retrouvé subitement papa solo dans un accident de la route. Votre épouse est décédée brutalement. Elle était enceinte de 3 mois, de votre deuxième enfant. Enfin, une histoire absolument dramatique. Vous allez nous raconter, parce que c'est ça qui nous intéresse, comment est-ce que vous avez trouvé la force de continuer, d'avancer avec votre fils Valentin, qui était âgé de 20 mois au moment de l'accident. Déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire quel papa vous étiez avant l'accident avec Valentin? Est-ce que vous étiez un papa très impliqué?
Oui, je crois que j'étais très impliqué, mais c'est mon fils qui fait de moi un père. Ouais. Et en fait, je crois que je n'ai pas eu vraiment le temps de me trouver une voie vraiment de père. Après, j'avais des valeurs, et mes valeurs, c'était celle de partager les tâches. Je veux sortir du patriarcat, et puis on partageait toutes les tâches, Lise et moi. Et voilà, ça, c'était mes valeurs. Maintenant, est-ce que je peux vraiment me définir comme père? J'ai pas eu vraiment le temps. Avant l'accident, il n'avait que 20 mois.
Que 20 mois, il était tout petit.
Donc, voilà.
Alors, le jour du drame, il y a évidemment le choc qu'il faut encaisser. Et puis, il y a l'annonce. Comment est-ce que vous l'avez annoncé à Valentin?
Alors, en fait, l'accident a eu lieu le matin sur le trajet du travail. Donc, Valentin était déjà à la crèche. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord appelé son assistant maternel. Je lui ai annoncé au téléphone, il a fondu en larmes. Et puis, ensuite, la maison s'est remplie petit à petit. Il y a eu plein de monde qui sont venus, parce que j'ai appelé des amis, la famille, tout le monde a débarqué. Et j'ai choisi de laisser Valentin à la crèche à la journée, parce que de toute façon, je n'aurais pas su tout de suite comment le gérer. Donc, je l'ai laissé faire sa journée normale, entre guillemets, à la crèche. Et puis, à 18h, je suis allé le chercher avec ma belle-sœur. Et là, je lui ai dit, ben voilà, Valentin, maintenant, c'est toi et moi, c'est juste nous deux. Et bon, on est rentré à la maison, il a vu plein de monde, et puis là, il a joué avec les gens. Et
la vie a repris ses droits,
voilà,
tout de suite.
Pour lui, en tout cas, ça a été assez... Visuellement, ça n'a pas beaucoup marqué. Ouais.
Comment est-ce que vous faites pour le rassurer quand il demande, par exemple, à voir sa maman ou quand il ne veut pas vous quitter? Parce que j'imagine que juste après, il a resserré avec vous, je dirais.
Oui, il est devenu très fusionnel. Mm-hmm. Alors, sur un plateau de télé, on dit fusionnel. Dans la vraie vie, on dit pot de colle, parce qu'il est très collant. Mais je dois le laisser quelquefois. Je dois partir, donc je le laisse chez une amie, ou chez une babysitter ou dans la famille. Et là, oui, il a beaucoup de mal à se séparer de moi. Il pleure comme si on lui arrachait les 4 membres. Et il dit, papa, reste là. Alors je l'embrasse, je le rassure, je lui dis que je l'aime. Je lui dis surtout que je ne l'abandonne pas. Je lui dis souvent que je ne l'abandonnerai jamais. Et puis bon, il y a un moment, il faut que je parte et il pleure quand même. Alors je pense que c'est surtout un travail que je dois faire sur moi parce que lui, au bout de 5 minutes, il pleure plus. C'est bon.
Dans les jours qui ont suivi, parce que vous dites que bon, finalement, il a continué à jouer, etc. Dans les jours qui ont suivi, il vous a demandé où était sa maman?
Oui, alors il en était au stade de vocabulaire où il disait « Maman, elle est où ?» Donc il m'a demandé quelques fois dans les jours qui ont suivi le décès, il dit maman elle est où? Et puis quand il jouait, puis il entendait la porte d'entrée s'ouvrir, il dit ah c'est maman, voilà, il y avait 2-3 fois comme ça. Et alors Je lui expliquais, quand la police est venue m'annoncer la mort de Lise, elle était accompagnée d'une psychologue à qui j'ai demandé conseil sur comment lui annoncer. Elle m'a dit qu'il fallait être franc, qu'il fallait dire la vérité, il ne fallait pas essayer de chercher, il fallait surtout éviter tout ce qui est secret de famille, lourd à porter, etc. Donc, quand il me demande « Maman, elle est où ?», je lui dis « Ta mère est morte ». C'est des mots crus, mais il faut qu'il les entende.
C'est ce que conseillent les psys en général.
Puis un jour, il a décidé de prendre un peu le taureau par les cornes. Je ne sais pas comment ce qui m'est passé par la tête, mais un matin, je vais le sortir de son lit. Il m'a fait clairement comprendre qu'il voulait que je le pose. Et là, il m'a grippé le doigt et puis il m'a traîné jusqu'à notre chambre à coucher. Il a tapé sur la porte. J'ai ouvert. Il a regardé le lit qui était vide et il a fait « pas là
». Vous pensez que c'est le moment où il a intégré ?
Alors, ça a été très dur pour moi et je pense que c'est le moment où il a dû intégrer parce qu'à partir de ce moment-là, il a arrêté de me demander où elle était. Jusqu'à l'été dernier, parce que j'ai mis des photos d'elle dans sa chambre. Moi, j'avais des photos d'elle dans le salon et j'ai dû les enlever parce que je détournais le regard. C'était trop dur pour moi. J'y reviendrai, je remettrai plus tard, mais pour l'instant, c'était encore trop frais et je me rendais compte que je détournais le regard. Mais j'ai mis des photos d'elle dans sa chambre pour que lui, il ait une idée. Et quand je lui montrais, je lui dis, tu vois, cette femme, c'est ta mère. Puis il disait, mais c'est la maman de Joséphine ? Parce qu'il a une petite...
Une copine qui s'appelle Joséphine.
Une copine qui s'appelle Joséphine à la crèche. Je lui dis, non, c'est ta maman à toi. Puis il me fait, bon, non, comme si ce n'était pas possible. Mmh. Et la fois d'après, il me repose la question, il me dit, c'est ma maman ? Alors je dis, oui, c'est ta maman. Et la fois d'après encore, il me dit, mais moi, je veux voir ma maman. Et là, régulièrement, là, depuis l'été dernier, il a commencé à me demander régulièrement où elle était. Et puis qu'il voulait la voir, et je lui dis qu'elle n'est plus là, que ce ne sera plus possible, et que j'aimerais aussi la voir, que ça me rend malheureux.
Ça doit être vraiment difficile. D'ailleurs, gérer les angoisses de séparation, puis tous les petits tracas, je dirais, des enfants de cet âge-là, j'imagine que c'est encore plus dur de... Alors, il y a votre peine en plus, donc ça, elle est en filigrane de votre vie, forcément, c'est tellement frais. Mais quand on est seul, quand on est un parent seul, c'est encore plus difficile à gérer, non ? Faire des choix...
Oui, parce que à deux, on s'en rend pas compte, mais on découvrait la parentalité tous les deux, et donc on tâtonne comme font beaucoup de parents, et puis c'est toujours plus facile de tâtonner à deux parce qu'on se rassure, on confirme ou on infirme la décision ou le choix de l'autre. Alors là, j'ai élevé un enfant, c'est 200 petites décisions par jour. Est-ce que je peux retarder sa douche d'un jour, ou est-ce que je peux le coucher un peu plus tard que prévu, parce que si, parce que ça. Et avant, je demandais confirmation à Lise, je lui demandais, et puis elle avait des doutes qu'elle me demandait aussi. Pour les grandes décisions de la vie, par exemple, je vais devoir choisir où le mettre à l'école prochainement, parce que j'ai le choix entre une zone d'éducation prioritaire, qui est l'école attitrée, et puis une école privée. Et ça, je ne sais pas comment choisir. Alors là, je vais demander de l'aide à des amis, à la famille, à mon entourage.
Vous arrivez à garder de l'autorité avec lui, parce que ça doit être tellement tentant de l'envelopper, de l'enrober, et d'oublier finalement de mettre un cadre, quoi.
Ouais. C'est très surprenant parce que quand on perd comme ça l'amour de sa vie, tous les projets qu'on avait faits, tout s'effondre d'un coup, notre premier réflexe, c'est pas d'être autoritaire. Le premier réflexe qu'on a avec son enfant, c'est de lui donner de l'amour. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait en masse. Et j'ai été un peu permissif, j'ai été un peu plus laxiste que d'habitude. Je lui ai laissé faire des choses qu'il pouvait pas faire normalement. Et à ma grande surprise, il a eu l'air paniqué et il a manifesté des moments de comme s'il était dans le vide tout d'un coup. Et puis, enfin, il a crié, il a hurlé. J'ai pas compris pourquoi. Et avec l'aide de psy, j'ai compris qu'en fait, il avait besoin d'un cadre. Et ça a été ma première, mon premier petit pas, mon premier effort, ma priorité, c'était que lui puisse vivre cette expérience avec le moins de traumatisme possible. Et donc, je me suis concentré sur ce qu'il fallait faire pour lui. Et donc, une des premières choses que j'ai dû faire et qui était contre mon instinct, c'était de lui redonner un cadre de l'autorité. Et ça a tout de suite mieux marché.
J'imagine à quel point vous avez dû vous faire violence. Est-ce que Valentin, il a tissé des liens particuliers avec des figures féminines ? On dit souvent que, généralement, ils viennent s'accrocher à une marraine, une tante, une grand-mère. C'était le cas pour lui ?
Pour l'instant, il ne manifeste pas ça. Mais c'est intéressant parce que, déjà, son assistant maternel, c'est un homme. Et puis, j'ai perdu ma mère quand j'avais 31 ans. Et à ce moment-là, j'ai, totalement inconsciemment, j'ai cherché à retrouver une figure maternelle. Et je pense que je me suis beaucoup reporté sur ma sœur, mais ce n'était pas son rôle. Et je me suis rendu compte beaucoup plus tard que j'avais eu ce comportement-là. Et il s'est passé quelque chose de très semblable à la mort de ma femme. C'est que j'ai voulu, pour Valentin, une mère de substitution ou quelque chose, voilà, une figure féminine. J'ai d'abord pensé à la sœur de Lise, à ma belle-sœur, qui était très proche de nous, parce qu'elle a passé le premier confinement avec nous. Et puis, en fait, je crois que ça ne se choisit pas. Ce n'est pas quelque chose qui se décide. Elle habite à plus d'une heure de chez nous. Et puis,
c'est Valentin qui va choisir, c'est ça?
C'est Valentin qui choisira. Pour l'instant, je ne vois pas chez lui de ce besoin. Mais oui, j'aimerais qu'un jour il ait une... Je dis toujours que je suis à la fois son père et sa mère maintenant. Mmh. Mais il lui faudrait une représentation féminine, c'est sûr.
Vous parlez d'avancer à petits pas? C'est ça le secret. On entend souvent dans cette émission, quand il y a des gros drames, qu'il faut chaque chose, à chaque jour suffit sa peine, qu'il ne faut pas trop se projeter. C'est comme ça que vous arrivez à tenir?
Ouais, je crois que c'est en tout cas le consensus qui a l'air de ressortir de tous les spécialistes du deuil. Moi, je suis quelqu'un de très efficace, je suis une profession indépendante, il faut que ça aille vite, je suis... Et là, on ne peut pas faire d'efficacité. Il faut forcément du temps. C'est long, c'est un marathon, c'est quelque chose d'extrêmement... on ne contrôle pas. Et moi, je suis quelqu'un qui aime contrôler les choses, et là, je ne contrôle plus rien. Et effectivement, au début, je pensais que ça allait durer quelques mois et puis que je me remettrais. Non, c'est plus de l'ordre de quelques années. Mmh. Je prends souvent la métaphore du train de la vie. On est tous sur un train qui avance inexorablement, c'est la vie. Et puis moi, j'étais dans le wagon famille avec du soleil, il faisait chaud, c'était beau, c'était magnifique. Et d'un coup, le train est entré dans un tunnel froid et glacé. Et en fait, j'ai fait ce que tout le monde ferait à cette place-là. On se retourne, on se dit, mais non, je ne veux pas perdre tout ce que j'avais, ce qu'il y avait avant le tunnel. Et puis, en fait, l'opération que j'ai à faire maintenant, c'est de me retourner, de regarder vers cette obscurité, vers ce tunnel glacé, pour espérer que ce qu'on dit est vrai, voir la lumière au bout. Mais c'est difficile de se retourner.
Je crois que ce qu'on dit est vrai, mais que ça prend beaucoup de temps, forcément.
Voilà.
Fiorovitch, bonjour.
Bonjour Agathe.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne en libéral et à l'espace natal aussi à Paris. Vous avez coécrit le livre « Bébé, dis-moi tout » avec Sabine Turca. C'est aux éditions Le Duc. Le deuil chez un adulte, je dirais que ça suit un schéma général parce qu'il y a différentes étapes. En tout cas, c'est ce qu'on dit, pour supporter la perte. Mais qu'en est-il chez l'enfant? Parce que là, on voit bien que Valentin, il n'imprime pas, quoi.
Mais bien sûr.
Voilà, il y a un moment où il dit « bon, bah, ça y est, en fait, pas là ». Mais
et puis il retente, parce que
c'est ça,
la notion
oui.
de la mort n'est pas encore acquise, le côté irréversible. La trajectoire de l'enfant dans le deuil est différente de l'adulte, parce que, de fait, l'enfant est un petit être en construction. Et donc, les choses vont dépendre beaucoup de la façon dont on lui présente les choses, la façon dont il va être guidé. Un petit enfant...
Il n'y a pas, quand on dit que tout à coup, quand on annonce un deuil, il y a une espèce de sidération, après on est anesthésié,
oui.
après on est en colère.
Oui, oui.
Est-ce que l'enfant, même à un rythme différent, vit ce genre de choses?
En fait, il faut absolument l'accompagner de paroles. Il faut lui dire les choses, il faut traduire ce qui le traverse. Même un tout petit bébé comme Valentin ressent l'absence. Donc, il faut mettre des mots. Il faut accompagner l'enfant aussi dans l'idée qu'il n'est pas responsable.
Il peut penser qu'il est responsable.
Il peut se dire que j'ai pas mangé ma purée de haricots verts. C'est ma faute. Il y a quelque chose de l'ordre de la pensée magique chez l'enfant. Cette idée que j'ai un pouvoir sur ce qui se passe. Donc il faut vraiment accompagner l'enfant dans cette idée qu'il n'y peut rien, ce n'est pas de son ressort, quoi. Vraiment. Et donc quand je dis que la façon dont on lui présente les choses est déterminante, il faut vraiment avoir en tête que cet adulte, ce parent qui reste avec l'enfant va devoir être entouré d'une team extraordinaire. Il va falloir soutenir ce papa, il va falloir vraiment l'entourer de toutes les forces que l'on peut.
C'est jusque quel âge cette pensée magique où l'enfant peut se croire responsable?
Alors, on sort de l'omnipotence globalement vers 5, 6, 7 ans. D'accord. Entre OCP, on commence à sentir qu'on n'est plus un super-héros et qu'on n'est pas comme dans un jeu vidéo, en fait.
Hein, l'âge de raison.
Exactement, que quand on meurt, eh ben, c'est définitif.
On a reçu cette question envoyée en vidéo par Angéline pour vous.
Bonjour à tous, donc moi ma mère est décédée depuis l'âge de mes 9 ans, donc c'est mon père qui m'a élevée tout seul. Il n'a jamais réussi à aimer une autre femme depuis ma mère. Donc en fait nos liens sont très forts tous les deux et j'aimerais savoir comment faire pour ne pas avoir cette impression de l'abandonner quand je sors le soir ou même le jour où je partirai de la maison. Merci pour vos conseils.
Alors ouais, c'est compliqué ça comme question.
On n'abandonne pas ses parents quand on quitte la maison,
ouais.
C'est le sens de la vie. J'ai en tête cette phrase reprise par Goethe dans le Talmud. On ne peut offrir que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes.
Oui.
Donc s'envoler le moment venu, c'est le sens de la vie. On sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas tout à fait été élaboré autour de la perte, de l'abandon dans cette histoire. Mais en tout cas, allez-y, vivez votre vie. Je ne sais pas où je dois regarder. Mais,
partout. Dites-lui fort.
Et votre père, il va se prendre en main, il va se prendre en charge. Et souvent, dans des situations comme celle-là, les enfants endossent un peu la fonction de parents. Mmh. Et ils mettent en retrait leur sentiment de chagrin pour pouvoir apaiser leurs parents. Mais c'est pas la fonction de l'enfant.
Presque, vous diriez aider son papa.
Ouais, mais
de
ça n'aide personne.
Un peu seul. Non, je veux dire ouais.
Oui, on a le sentiment.
Quand elle va avoir sa vie, etc., ça va l'aider.
Oui, il va falloir qu'il se retrouve face à lui-même.
Bien sûr, et à lui trouver un petit peu les ressources et de renouer avec la vie. Tout ce qu'on peut souhaiter à ce papa et à tous les papas dans ces situations-là, c'est de renouer avec la vie. Le cap, hein, on se l'était déjà dit dans une précédente émission, c'est parce que la vie, on sait qu'elle est, elle dure un temps donné, qu'il faut qu'elle soit la plus savoureuse possible.
Alors, on a une autre question d'Alexandre qui vous demande « La présence de la mère est souvent considérée comme... plus nécessaire que celle du père pour un très jeune enfant. » Je fais attention parce que j'ai peur même si ce n'est pas ma question, j'ai peur qu'il m'envoie. « L'enfant orphelin de mère sera-t-il à jamais marqué par ce manque ?»
Alors, première chose à dire, c'est que traditionnellement, effectivement, classiquement, un enfant noue un lien très fort avec la maman. C'est charnel, c'est corporel, il y a un côté fusionnel. Mais quand la maman, à la naissance, n'est pas disponible, soit psychiquement parce qu'il y a une dépression, soit parce qu'elle n'est plus là, le papa peut devenir l'étoile polaire de l'enfant, peut être cette figure principale d'attachement. Et l'enfant en a éminemment besoin. On a besoin, quand on est un tout petit bébé, de pouvoir complètement s'abandonner, être porté par une figure sécurisante. Et l'enfant a la plasticité psychique de pouvoir s'attacher à quelqu'un qui lui donne ce dont il a besoin. Donc, quand on est petit, on peut tout à fait accueillir une belle maman, on peut s'attacher...
Une nouvelle figure.
En tout cas, une figure d'attachement, quelqu'un qui va vous donner ce dont on a besoin.
Ça peut être une grand-mère, ça peut être...
Complètement, ça peut être le papa, ça peut être... Mais juste en deux secondes, cette idée de projection de sa vie va être foutue parce qu'il n'a plus de maman, il faut en sortir. Ça, c'est nos projections. L'enfant, lui, il a cette souplesse, cette possibilité de refaire chanter
et
la
de
vie.
De se construire.
Vraiment.
Première question peut-être de Vincent qui vous demande, c'est important de parler du parent disparu, d'évoquer des souvenirs ou mieux vaut-il attendre que l'enfant pose des questions? Est-ce qu'il faut en faire un tabou?
Moi je trouve que c'est hyper important d'en parler. Ouais. Il ne faut ni en faire un mausolée, ni être dans le déni en fait. Mais cette maman qui a désiré cet enfant, qui l'a porté, qui a choisi son prénom, qui a été bien vivante, pleine de blagues et de recettes, il faut la convoquer dans la vie. Et je pense que on a besoin, quand on est un enfant, de grandir avec cette identité pleine.
Pierre demande, conseillez-vous d'associer les enfants à la préparation de la cérémonie, de les emmener à l'enterrement?
Alors, d'une manière ou d'une autre, il va falloir les associer.
Peu importe l'âge.
Oui. Il faut d'une façon adapter à leur âge de développement, à la sensibilité, à la culture de la famille. Mais vouloir trop les préserver, c'est les exposer en réalité. Il faut vraiment que l'enfant puisse faire partie du groupe dans ce moment de deuil. Le rituel, c'est quelque chose d'assez incroyable parce qu'à la fois, c'est beaucoup de douleur, mais c'est aussi étonnamment de la joie. Il y a quelque chose qui se tricote entre la vie. On est ensemble, on se remémore des souvenirs, et en même temps, c'est épouvantable. Mais il y a quelque chose qui se tricote entre la vie et la mort, et l'enfant, d'une façon ou d'une autre, doit être associé. Si c'est trop, il fait trop froid, s'il est trop petit pour être là le jour de la cérémonie, alors il peut revenir le lendemain avec, avec son parent, où il peut en tout cas préparer un dessin. En tout cas, il ne peut pas être exclu de ce moment si fondamental dans son histoire.
Mmh. Arnaud, indépendamment de la question du deuil, là on a beaucoup parlé de la condition de papa solo. Est-ce que vous diriez que les papas solo sont différents des mamans solo ? Est-ce que ma question n'a pas de sens ?
Il y a... Ça dépend un peu de...
Il dira jamais si votre question n'a pas de sens.
Il y a des hommes qui ont une sensibilité très diverse. Moi, non, je n'irai pas trop dans ce sens-là. Ça dépend vraiment de l'homme et de la femme. Mmh. Ça dépend aussi de son parcours. On a entendu avant aussi la perte de sa propre mère, elle était jeune, etc. Moi, ce que je vois, c'est que tout dépend aussi, parce que j'ai beaucoup de cas où il y a le père ou la mère qui sont morts, et après, il faut accompagner le ou les enfants. Et aussi, il y a des morts lentes. Là, c'était brutal.
Exactement.
Mais il y a aussi des morts lentes où j'ai une maman en face de moi qui n'a plus de cheveux, qui a un traitement.
Qui sait qu'elle va partir.
Elle sait qu'elle va mourir. Et le papa accompagne. C'est très compliqué. L'enfant, on ne peut pas lui mentir. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on ne peut jamais mentir à un enfant, même un nouveau-né. Le nouveau-né, il faut l'associer. C'est vrai que nous, dans notre culture, on a trop tendance à cacher à mettre les enfants de côté. Enfin, moi, ma génération, c'était ça. Il y a des deuils que moi, je n'ai pas fait, de grands-parents. Ouais. Je le regrette qu'on ne m'ait pas associé. C'est une catastrophe de ne pas le faire. Donc, il faut associer l'enfant. C'est
et là, plus personne ne conseille, justement, de cacher la vérité.
Ah non, il ne faut
plus personne.
Pas...
Voilà. C'est unanime.
Mais il ne faut pas en faire
trop. Il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas être là tous les 5 minutes en disant ah, tu sais, on va faire.
Oui, c'est ça. Ni déni, ni mausolée. Tout est dans un équilibre.
Clem vous dit j'ai perdu un de mes parents quand j'étais jeune. Comment ne pas transmettre mes inquiétudes à mes propres enfants, on peut la comprendre, car oui, la peur reste ancrée dans mes pensées.
Oui, bon, il faut qu'elle aille d'abord, il faut faire un travail avec tout ça pour qu'elle puisse être après disponible pour accompagner son enfant dans son histoire singulière.
Est-ce qu'elle doit le dire ?
Ah ben, elle peut donner des éléments de son parcours. Moi, je dis qu'il faut filtrer, il ne faut pas tout dire. Alors, on est dans une époque où, bien sûr qu'il faut parler aux enfants, mais parler, ça ne veut pas dire abreuver non plus. On donne la béquille, on filtre. On mâchouille un peu ce qu'on doit dire à l'enfant et on lui restitue pièce par pièce.
D'accord.
Ça, c'est une belle image, la béquille. Ça, c'est beau.
C'est bion.
C'est très beau.
C'est pas de moi, mais c'est la psychanalyse.
Lucie dit, alors c'est intéressant, on met souvent en garde les mamans solo contre la tentation d'être fusionnelles avec leur enfant. Oui. Cela peut-il arriver aussi avec les papas solo ? Question à tous les deux. Mais oui, il n'y a pas de raison.
Il faut du tiers, on est bien d'accord là-dessus.
C'est clair.
Il faut du tiers, il faut que l'enfant sente qu'il n'est pas tout pour son parent, que le parent a une vie aussi. En dehors de son enfant. C'est trop de pression, sinon, pour un enfant de sentir que tout dépend de lui, quoi.
Et à l'inverse, le papa ou la maman solo, peu importe d'ailleurs les circonstances du fait d'être solo, il ne faut pas que toute sa vie soit tournée vers son enfant.
Ah ouais.
Et c'est compliqué. Une fois
qu'on a
dit ça...
Moi, j'ai une collègue qui envoie ses patients sur Mythique. Il faut refaire sa vie, il faut retourner vers la vie d'une façon ou d'une autre. Ça paraît très difficile dans un premier temps. Il faut que le deuil se fasse. Mais il faut toujours avoir cette idée que le train dont on parlait tout à l'heure... il va à un moment donné ressortir du tunnel et qu'il va y avoir la vie. C'est la seule chose qu'on peut souhaiter à tous ses parents.
Et c'est le cas d'ailleurs, je veux dire, en règle générale.
Mais bien sûr.
Les veufs et les veuves ne restent pas toute leur vie inconsolables. Mais c'est vrai que... on peut imaginer que quand on est en train de vivre un deuil, l'idée de refaire sa vie, c'est presque du dégoût, quoi.
Oui.
Je veux dire...
Aller
embrasser une autre femme...
C'est trop tôt.
Je sais pas,
Mais le moment venu.
Est-ce qu'il faut se faire violence, justement ? Est-ce qu'il faut s'obliger à tout à coup aller pécho, quoi ? Voilà.
En tout cas, il faut accepter qu'il y a un temps où on est un peu en repli, mais avoir en tête que ce repli ne sera pas là toujours. Il faut toujours avoir en tête cette idée-là.
Ça passera.
Ouais. Et puis, quand il y aura une nouvelle famille, peut-être, qui va se recréer, avoir en tête qu'il faut toujours avoir, que l'enfant sente qu'il peut toujours avoir la possibilité de parler de sa maman, de son parent. Qu'il y a toujours un espace pour parler de ce parent qui n'est plus là, et que ce parent n'est plus là en dehors, mais il est là en dedans. C'est ça le deuil. C'est finalement, il n'est plus là à l'extérieur, mais il est là à l'intérieur. Et on peut en parler tant qu'on en a envie et besoin.
Christophe vous demande, c'est important qu'un enfant ait une figure maternelle de remplacement. Si oui, est-ce à l'enfant de la choisir ou est-ce au parent restant de l'identifier et de lui donner cette place ?
Alors, pour aller dans le sens de ce que vous disiez,
il faut laisser faire. L'enfant va avancer, il faut respecter, il faut être à son écoute. C'est hyper important, ça va dépendre bien entendu de son âge, de l'entourage. Mais il va se projeter, c'est important.
Ça
va se faire petit à petit.
Il y a des papas qui sont très mères juives, qui ont cette fonction maternante.
Oui.
Donc, c'est pas une histoire de sexe, finalement, cette histoire-là.
Non, c'est pour ça que, c'est pas une question de sexe.
Par contre, très important, je crois, moi, d'aller chercher l'histoire de la famille du côté de la maman. C'est-à-dire, pour grandir avec une identité pleine, il faut que cet enfant il soit en lien avec les cousins, avec les cousines, histoire, qu'il lui raconte et qu'il ait accès à cette histoire, à ce pan de sa vie, parce qu'on est moitié papa, moitié maman, en fond.
Sandrine vous demande des conseils pour un petit garçon de 3 ans dont le papa est parti depuis plus de 6 mois du domicile conjugal. Il est très difficile et méchant malgré un entourage très présent.
Alors, qu'est-ce qu'on en sait de ce... La maman ne sait pas pourquoi le papa est parti, il n'y a pas d'éléments.
En tout cas,
quoi.
Nous, on n'en sait pas plus, mais on peut imaginer que c'est forcément une forme de traumatisme pour l'enfant.
Bien sûr, en tout cas, lui dire qu'effectivement, la situation est comme ça pour le moment, qu'on n'a pas forcément plus d'éléments, que c'est difficile pour nous, mais qu'on va... On va se renforcer pour que lui, sa vie d'enfant, puisse continuer la plus normalement possible. Mais je ne sais pas ce qu'on peut forcément...
Parti physiquement.
C'est pas, non, c'est pas mort. Non, une séparation.
On est bien d'accord. Ah. Oui, parce que
partie du domicile
conjugal. Voilà, d'accord. Je pensais qu'il était sur son sac à dos.
D'accord.
Parti, ça veut dire qu'il y a quand même un travail à faire déjà avant. Parce que quand quelqu'un part, c'est qu'il y avait déjà des problèmes avant. Donc, ça ne tombe pas brutalement d'un coup. Alors, soit on était dans le déni et on n'a rien et on a tout caché à l'enfant, 3 ans, c'est tard. Faut en parler. Enfin, quand un couple ne fonctionne pas bien, s'il y en a un qui part, il y a quand même des prémices.
Et puis, il n'est pas dupe, l'enfant. L'enfant n'est pas dupe. Il voit bien ce qui se passe. Quoi.
Mais même un nouveau-né. Moi, je le découvre après 40 ans ou 30 ans de pédiatrie, un nouveau-né est capable d'entendre des choses.
Bien sûr.
C'est incroyable. Bien sûr. Et nous, on le sait avec tous les résultats des recherches, etc. Donc,
dans les séparations, les pédiatres ont leur rôle.
Ah
vous,
oui,
vous
énorme,
conseil.
Énorme. Ouais. Moi, j'ai des parents qui viennent me voir, soit la maman, soit le papa, séparément, soit ils me préviennent avant, en me disant, écoutez, il y a des questions que je voudrais aborder, mais je ne sais pas si je vais les aborder devant l'enfant. Alors déjà, le déni. Je vais quitter leur papa. Oui. Ou le contraire. Le papa qui me prévient, mais la maman ne le sait pas encore. Enfin, on voit tout et son contraire. Et souvent, et c'est plutôt bien, aller voir une psychologue, les gens, parfois... Ils ont un peu peur. Ils se disent ma compagne va peut-être mal le prendre, ça va se retourner contre moi. Le pédiatre, on le connaît déjà. On le voit pour l'enfant. Et c'est souvent un peu le premier recours où on demande des conseils. Mmh. On fait ce qu'on peut avec nos outils, bien sûr. Et après, on oriente vers les professionnels.
Oui, donc ça peut être un recours, parce qu'on a une question de Pascal
Absolument.
Qui nous dit faut-il nécessairement emmener ses enfants chez le psy pour les accompagner dans le deuil ? En fait, on peut déjà peut-être.
Alors pour ce qui est du deuil, je crois que. Et le deuil, ça peut être à tous les niveaux, les grands-parents, un papa, une maman, enfin une sœur, un frère. Moi, j'ai régulièrement ça, c'est horrible, hein, mais perdre un frère, une sœur. Donc nous, on est là, on connaît les enfants, on connaît les parents, donc on est un peu en première intention, on connaît le lien, et on va pouvoir faire quelque chose.
Et léger notre sujet du jour.
Oui.
Je préfère vous prévenir.
Oui.
Je crois que
ça fait partie de notre métier.
Je peux entendre ce matin.
Ça fait partie de notre métier.
Bon, en tout cas, ça ne peut pas faire de mal dans
mes enfants. Non, mais en tout cas, on le redit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut accompagner les parents.
Oui.
C'est-à-dire le papa ou la maman, le parent qui reste. Et l'accompagner, c'est pas juste lui dire « Oh, je pense à toi ». C'est « Je te prends tes enfants demain, je les emmène à la Villette, je suis là au karaoké, ou je t'ai préparé des lasagnes aux légumes confits ». On est là dans la vie, on est vraiment là. Ah, et plus ça. Le papa, en fait, pour moi, c'est l'idée des poupées russes. C'est-à-dire que pour que le papa puisse envelopper son enfant, il faut que lui-même il soit enveloppé. Et c'est des moments aigus comme la naissance. Moi, je dis souvent ça au moment de la naissance, quand une maman est un peu fragilisée, on dit oh là là, vous monsieur ou aux coparents, vous enveloppez à fond cette maman pour qu'elle puisse envelopper son tout petit. Voilà. Donc on met le paquet sur le parent qui est guide dans la vie pour l'enfant.
Voilà, merci beaucoup à Eve Piorovic et surtout un grand merci à Maxence d'être venu nous voir dans la maison des maternelles. J'espère que cet épisode vous a plu. Écoutez, moi je vous dis quoi ? Je vous dis rendez-vous demain samedi, épisode inédit du podcast des maternelles, un épisode qui n'est pas passé à la télé avant, qui passe juste en podcast, une exclusivité et le thème en plus il est trop cool. Je vous le dis tout de suite puisqu'on va parler du sport pendant la grossesse et après la grossesse. Alors si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez vous dire mais non mais ça m'intéresse pas, je m'en fous un peu. Au contraire, parce qu'en fait parler de sport c'est au final parler de tout. C'est de parler de la santé, c'est de parler de la santé psychologique, c'est de parler de la libido, c'est de parler du sexe avant, pendant, après, c'est de parler du bien-être, du postpartum, de la dépression, du baby blues, des relations entre l'homme et la femme, du couple, du physique, enfin bref, parler de sport, on s'est rendu compte de ça en enregistrant l'épisode, c'est parler de tout. Donc je pense que c'est un bon épisode. Je le dis avec grande humilité. J'ai été un peu long, mais j'espère que vous écouterez cet épisode que je trouve très cool. Allez, ciao tout le monde, bonne soirée, bon week-end, bonne nuit, et on se retrouve sur l'antenne de France 2 lundi matin. Ciao.